Alors, je vais répondre à ces questions. Ne peut-on pas affirmer vraiment que l'intention morale est au premier amour ce que la dévotion est à l'adoration? En effet, pour saint Thomas, la dévotion est la volonté de se livrer promptement à ce qui concerne le service de Dieu. Elle est l'acte par lequel on se soumet totalement à Dieu, par lequel on fait offrande de soi-même à Dieu pour le servir. Ainsi, de même que le premier amour est le fondement toujours actuel de l'intention morale, qui le purifie, le fortifie et le réactue sans cesse grâce à l'engagement de l'intelligence prudentielle. De même, l'adoration trouverait sa constance et sa perfection dans la dévotion grâce à la vertu de religion. C'est-à-dire que l'adoration y trouverait sa promptitude, comme le dit saint Thomas, elle y serait affermie par l'acte illicite de la volonté qui se voue à sa fin ultime en s'y consacrant. Je vais lire les autres questions. Est-ce que l'adoration est une béatitude? Non, ça c'est vite fait. Sinon, quelle serait la béatitude de l'homme religieux? Toutes les béatitudes, enfin, les béatitudes de l'homme religieux, c'est la contemplation. Vous voyez? C'est la béatitude de l'homme religieux comme homme religieux. C'est de l'adoration, on passe à l'adoration. On passe à la contemplation, à un appel de contemplation, dans la mesure où il y a une contemplation naturelle de Dieu. C'est là la béatitude. L'adoration, on ne peut pas dire que l'adoration comme telle est une béatitude. Ce n'est pas un achèvement, on verra ça. Le reste, bon, la vertu de religion, à elle seule, peut-elle déterminer son juste milieu ou doit-elle recourir à la vertu de prudence qui ainsi aurait un nouveau statut dans l'éthique religieuse? Bon, c'est bien. Alors, là, c'est fondamental cette question, on y avait touché la dernière fois, je comprends très bien. C'est la question importante de voir ce parallélisme qui c'est pas commode, parce qu'au fond, on n'a pas beaucoup pensé philosophiquement, on y a pensé théologiquement à la vertu de religion, parce que saint Thomas nous l'a donné. Mais philosophiquement, on n'a pas beaucoup pensé à l'attitude religieuse. Je ne vois pas d'études. Si vous en voyez, j'en vois pas. Parce qu'il y a l'étude du sacré, tout ça, mais ça, c'est dans beaucoup plus psychologique. Au fond, il n'y a pas beaucoup d'études par rapport à ce que représente l'éthique proprement religieuse. On a repris Aristote pour l'éthique morale, l'éthique proprement humaine, mais comme Aristote ne donne pas la dimension de l'éthique religieuse, je ne vois pas où elle est. Elle est présente, si vous voulez, à l'état, justement, à l'état virtuel, mais elle n'a pas été explicitée pour elle-même. Donc on doit l'expliciter. Ça, je vous dis, on est dans un état de recherche. Alors, je prends l'amour, puisque tout est là, cet amour spirituel fondamental, dont nous n'avons pas l'expérience immédiate. J'ai l'expérience de l'amour d'amitié, j'ai l'expérience d'un choix, mais cet amour spirituel fondamental qui porte sur le bien spirituel, sur la personne, j'en ai pas immédiatement. C'est au fond le fruit d'une analyse. C'est pour ça que le parallélisme est intéressant, mais je ne sais pas s'il est tout à fait juste. Ne peut-on pas vraiment affirmer que l'intention morale est au premier amour ce que la dévotion est à l'adoration? Je vais faire le parallélisme. Donc l'amour et l'intention. L'intention, on passe donc avec l'intention à faire que ce bien devient ma fin. C'est là le passage entre les deux. Et entre les deux, il y a nécessairement le point de vue de l'intelligence qui joue. Évidemment, là aussi, il y a l'intelligence, mais une intelligence très, très, très rudimentaire pour cet amour spirituel. L'intelligence est donc aussi la liberté. Je la note tout de suite pour ne pas l'oublier. Il y a une première liberté très très fondamentale d'accepter ou pas accepter ce premier amour. d'une certaine manière. Alors, l'intention morale est au premier amour ce que la dévotion est en adoration. C'est bien ça.
Vous voyez ?
Ne peut-on pas affirmer vraiment que l'intention morale est au premier amour ce que la dévotion est l'adoration ? Alors, ce qui me gêne là, c'est que ici, on est dans un ordre d'analyse. Un ordre d'analyse pour essayer de creuser ces différents moments qui structurent l'acte humain. Après l'intention, vous avez le conseil et vous avez le choix. D'élection. Puis après, vous avez une période. Bon. C'est très vrai que la prudence va nouer tout cela, hein, c'est sûr. Mais c'est une analyse de l'acte humain, de l'acte volontaire, pour découvrir les différents moments par rapport au bien, par rapport à la fin, au bien personnel, à la fin, par rapport aux moyens. Et l'impériaux, donc l'exécution. Je dirais, dès que je suis, là je suis au niveau fondamental. Ceci, je crois, c'est, ça se retrouve tout le temps. À tous les niveaux. Puisque même l'ordre surnaturel ne supprime pas mon conditionnement humain. Et dans mon conditionnement humain, je dois commencer par aimer, avant d'avoir l'intention, avant de choisir les moyens, avant de passer à l'exécution. Tandis qu'au contraire, quand je regarde le point de vue de l'adoration et le point de vue de la dévotion, je suis en face d'actes particuliers qui impliquent un premier amour. Un premier amour nouveau, qui est un amour spirituel à l'égard de Dieu. C'est-à-dire à l'égard du Créateur. Dès que j'ai découvert que Dieu existe, il y a un appel, donc il y a un appétit spirituel nouveau, qui n'est pas l'appétit vers tout le bien, mais qui est déjà plus déterminé. Ici, c'est la personne humaine, puisque c'est celle que je peux constater. Je n'ai pas un contact premier avec Dieu. Je ne peux pas dire, je pourrais dire hein, que d'une certaine manière, au-delà de la personne humaine, il y a un appétit indéterminé vers Dieu. Ça, c'est vrai, que je ne connais pas. Naturellement, la partie aime le tout, comme dit saint Thomas. La partie aime le tout. C'est ce premier amour fondamental de la partie aime le tout. Je ne sais pas ce qu'est le tout, je n'ai pas l'expérience, mais il y a un amour naturel de la partie aime le tout. Cet appétit très foncier, très, très radical, je le pose dans un jugement de sagesse. Je dis dans un jugement de sagesse, je crois que ce sera un jugement de sagesse. Dans la jugement de sagesse, je dis qu'il y a un appétit naturel de la partie vers le tout. Donc il est foncier, cet appétit. Il est donc ici, vous voyez bien, un appétit naturel, un amour naturel, un appétit naturel de la partie en tant que partie. Alors, cet amour, il est fondamental par rapport à cet amour spirituel qui se porte sur une personne. Il faut bien. Et il est celui qui va s'expliciter par rapport à Dieu. Une fois que je suis porté vers le Créateur, il y a un amour. Et je suis devant cet amour foncier et premier. Il n'y a pas d'adoration sans un premier amour. Impossible. Donc l'adoration n'est pas au niveau de cet amour spirituel. Il y a un amour spirituel particulier qui se porte et qui, d'une certaine manière, précise cet amour que je ne peux pas découvrir directement, mais que je pose fondamentalement. Tout esprit créé comme esprit créé se porte vers Dieu. C'est quelque chose de naturel, tout simplement. On l'accepte, on ne l'accepte pas. Hein. Vous voyez, c'est autre chose. On peut le dévier, il y a un transfert, hein, comme Mais là, un transfert métaphysique, du moins un transfert très très fondamental qui fait que ça se dévie. Mais je crois qu'il faut le poser, ça, l'amour de la partie vers le tout. Donc, appétit naturel. Appétit naturel qui, de fait, va se présenter dans cet amour spirituel vis-à-vis de mon lien spirituel à personne, puisque c'est le plus immédiat au point de vue de moi-même, au point de vue de mon conditionnement. Par rapport à mon conditionnement, il est premier génétique. Ça, c'est sûr. Il est premier génétique. Celui-ci est premier dans l'ordre parfait. Mais tous les deux s'enracinent dans ce premier appétit fondamental de la partie vers le tout. De sorte que je mettrai, moi, un amour spirituel analogue à ce premier amour, plus déterminé puisqu'il se porte sur Dieu, déterminé au sens qu'il est particulier, et cet amour, dans la mesure où je l'accepte, parce qu'il me met dans cette dépendance radicale vis-à-vis de Dieu, et dans cette réceptivité vis-à-vis de Dieu, et en même temps me porte vers lui. Cet amour va donc apporter une intention. Alors, est-ce que cette intention, si vous regardez ce que représente pour saint Thomas la dévotion, la volonté de se livrer promptement à ce qui concerne le service de Dieu, alors, est-ce que cette intention est une intention qui va porter sur Dieu comme fin? Explicitement, je ne peux être finalisé au point de vue religieux, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'en regardant Dieu comme ma fin. Je n'ai plus la personne humaine, c'est Dieu qui devient ma fin. Ma fin dernière, mais une fin vers laquelle je tends. Alors, cette intention, elle est impliquée aussi dans l'adoration. Il y a un amour de Dieu, et je me porte vers Dieu comme fin. Et, d'une certaine manière, je noue ma volonté vers Dieu en m'offrant. Alors l'adoration implique cette offrande de ma vie, de moi-même. C'est vraiment la partie qui comprend que son lieu propre, c'est Dieu qui est son lieu. Intérieurement, ça. Donc ça implique une intention et d'une certaine manière un choix. L'adoration implique ça, l'adoration c'est un choix libre. Une intention libre et un choix libre. Je ne peux pas faire un acte d'adoration sans qu'il y ait un choix libre. C'est impossible autrement. Donc il y a un choix libre de m'offrir. La seule chose qui m'appartient plus, c'est m'offrir. Je m'offre vis-à-vis de Dieu. Et c'est bien ce fait qui est, je crois, l'adoration qui fait que je suis entièrement relatif à Dieu. J'accepte cette dépendance radicale à l'égard de Dieu, et je m'offre à Dieu. Alors évidemment, si je prends l'acte de dévotion, la volonté de se livrer promptement à ce qui concerne le service de Dieu, je dirais, avant, il y a justement ce fait de se donner, de s'offrir. Et la dévotion, service. Oui. Dites.
Il y a l'adoration intérieure et l'adoration extérieure. Mais l'adoration intérieure, c'est la dévotion.
Si vous voulez, c'est la dévotion. Mais le mot dévotion, dans le point de vue courant aujourd'hui, est beaucoup plus du côté du service.
Chez saint Thomas, ça n'a rien
d'être. Non, chez saint Thomas, je suis d'accord. Je le prends exprès, adoration, dans ce sens-là, parce que, vous voyez, la dévotion, la volonté de se livrer promptement à ce qui concerne le service de Dieu. Je mettrai adoration, s'offrir soi-même. Pour que vous, il ne faut pas quereller sur des questions de mots. Hein. Moi, je crois que c'est l'acte intérieur d'adoration. S'offrir soi-même, en partie. Voyez. Et en s'offrant soi-même, on s'offre en tant qu'on est dépendant de Dieu. C'est-à-dire comme créature. Voyez. Soi-même, c'est-à-dire la créature. La créature dans son unité, son âme et son corps, tout soi-même. Vous voyez. Si vous appelez ça dévotion, j'aime mieux l'appeler adoration. Parce qu'il me semble que cette offrande de nous-mêmes, c'est en tant qu'on est la créature relative à Dieu, offerte à Dieu, dans un premier amour. Oui. Alors, ensuite, l'adoration pourra s'extérioriser, c'est sûr, mais on fera tout l'aspect liturgique. Mais il me semble qu'il y a ce premier moment. Et je mettrai plus après, vous voyez, le point de vue de l'exécution dans le fait du service. On est prêt. Grâce à l'adoration, je peux me tenir dans une attitude d'abandon par rapport à la volonté de Dieu. Et me mettre serviteur de cette volonté de Dieu. Alors, ce serait la dévotion. Je me dévoue. Vous voyez ? Je me dévoue et qui viendrait ensuite. Et voyez, ce qui me semble important, c'est de rappeler que cette analyse est fondamentale, vous la retrouvez forcément, mais je ne ferai pas le parallélisme entre adoration et dévotion et amour et attention. Vous voyez ?
Est-ce que pour simplement le service est à entendre sur le plan de l'efficacité d'une œuvre à faire ? Ou bien est-ce que c'est pas beaucoup plus que ça ? Parce que pour lui, tant qu'on n'est pas sur le plan des vertus théologales, de la charité, on ne peut avoir qu'un service à l'égard de Dieu, qui est une fin ultime, il n'y a pas d'amitié.
Ah, il y a l'amour, oh, ça a été étudié, ça. Jean de Saint-Thomas a étudié très fort cette question de l'amour. Il dit qu'il y a un certain amour vers Dieu. Il ne dit pas de réciprocité, mais il y a un amour qui dépasse le service. Et moi, je mettrais qu'il y a quand même un amour, parce qu'autrement, on ne pourra pas appeler la contemplation. Il faut fonder la contemplation sur l'adoration. Et s'il n'y a pas un amour, je ne peux pas. S'il n'y a qu'un service, il n'y aura pas de contemplation. Donc il y a à l'état embryonnaire un appel contemplatif qui implique un amour des gens, qui n'est pas un amour de réciprocité, mais qui est un amour. C'est pour ça que je dis offrande de nous-mêmes.
Vous voyez ? Ça te va dire offrande de nous-mêmes pour le service. Oui. Offrande de nous-mêmes.
Oui, offrande de nous-mêmes. Est-ce, qu'on peut faire... est-ce que l'adoration n'est pas fondamentalement l'offrande de soi-même ? Alors évidemment, on peut dire dévotion. Je prends le langage le plus... Quand on met dévotion aujourd'hui, je ne sais pas, mais moi, je ne pense pas ça du tout. Je pense beaucoup plus au service, on se dévoue. Oui ? Dans le langage habituel. Alors, pour saint Thomas, c'est très différent. On voit très bien, saint Thomas est dépendant de toute une tradition qui est chrétienne. J'essaie de repenser le problème, et je crois qu'il faut le faire, vous voyez ? Quitte à expliquer comment il y a une petite divergence avec saint Thomas, mais j'essaie de repenser le problème au plan, si vous voulez, philosophique.
Oui. Si on change dévotion par consécration, est-ce que vous ne pourrez pas une consécration explicite ?
Pour moi, l'adoration est une consécration.
Est-ce que vous ne pourrez pas qu'elle explicite quelque chose dans l'adoration, oui, comme
la conséquence. L'adoration font la consécration. C'est comme la consécration. Non, pas. J'ai dit qu'il y a un premier amour, vous voyez, il y a un premier amour spirituel qui est le fondement de l'adoration. L'adoration est déjà au niveau de l'intention et du choix.
L'adoration, c'est pas reconnaître le bien comme le premier amour est reconnaître.
Non, c'est beaucoup plus que ça. L'adoration, c'est s'offrir, on s'offre à Dieu. On s'offre à Dieu intérieurement. C'est une volonté qui est déjà nouée au point de vue de l'intention et au point de vue du choix. Ce n'est pas uniquement s'offrir à Dieu. Que l'adoration présuppose ça, je suis tout à fait d'accord. Mais l'adoration est déjà quelque chose de beaucoup plus explicite. Et je crois que c'est la créature qui adore en reconnaissant sa totale dépendance à l'égard de Dieu. La créature reconnaissant sa totale dépendance à l'égard de Dieu s'offre à Dieu en s'adorant, en l'adorant. C'est-à-dire en laissant Dieu passer devant. Et alors, parce qu'il laisse passer Dieu devant, il peut se dévouer, se mettre à son service. Vous voyez ? Je dis quelque chose qui n'est pas... Ça ne me gêne pas du tout, parce que saint Thomas se place au point de vue théologique. Vous voyez, c'est comme si on reprenait constamment la question de la substance dans saint Thomas, mais analogiquement, vous voyez ? C'est pas... Saint Thomas se place à un point de vue théologique, donc... Il y a un petit peu une perspective différente, une théologie chrétienne. Alors, il n'y a pas d'opposition entre ça et ce que dit saint Thomas, c'est simplement pour essayer de préciser le premier acte qui nous met dans une perspective d'éthique religieuse. C'est ça que je cherche, au point philosophique, vous voyez ? C'est ça que je cherche. Autrement dit, le rapport entre adoration et dévotion. Alors, est-ce que l'adoration n'est-elle pas quelque chose de plus fondamental où je m'offre moi-même librement à Dieu dans une attitude d'holope, d'attitude d'adoration, c'est-à-dire de soumission, de remise totale de moi-même, par rapport à Dieu qui est premier. Oui. Et donc c'est tout moi-même, comme créature, c'est pas uniquement, c'est intérieur, ça, c'est évident, mais c'est tout moi-même. Donc c'est normal que cette adoration va s'exprimer ensuite dans une prière liturgique. Elle va s'exprimer de façon visible, c'est normal. Et même que pour exprimer l'offrande de moi-même, il y ait des sacrifices, symboliquement, parce que je m'offre moi-même. Et il faut expliquer le symbolisme du sacrifice. Et le symbolisme du sacrifice exprime quelque chose que je vis intérieurement et que j'exprime symboliquement en offrant les choses. Alors, on retrouvera les sacrifices dans toutes les religions, c'est ça qui est invraisemblable. On retrouve les sacrifices dans toutes les religions. Donc il y a un fondement naturel. On ne peut pas visiblement s'offrir, parce qu'on est en dépendance de Dieu et que notre vie dépend de Dieu. Donc on ne peut pas se tuer pour montrer combien on l'adore. Mais on éprouve le besoin de tuer un animal pour montrer qu'on est dans cet état de dépendance totale et que notre vie est remise. Alors, la liturgie du sacrifice vient expliquer, va montrer de façon communautaire ce qu'est l'adoration. Et la dévotion va suivre, il me semble, que l'adoration conduit à une attitude. L'adoration implique une consécration, je suis tout à fait d'accord, mais je mettrai implique, c'est comme la conséquence de l'adoration. C'est celui qui adore qui est consacré à Dieu. Et que l'adoration nous conduit dans une attitude d'abandon, de remise de notre volonté propre à Dieu, pour être totalement à son service. Comment j'exprime ? Vous voyez ? C'est peut-être quelque chose que... Ça me semble pas du tout contraire à saint Thomas. Ça me semble simplement creuser davantage le premier moment de l'attitude religieuse. Voilà. Et il me semble que le premier moment d'attitude religieuse, c'est bien l'adoration.
Pour qu'il y ait le passage à l'adoration, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une certaine quand même, conscience de l'attraction du don du premier amour ?
Conscience ?
Quand on dit que
oui, mais je ne dis pas une expérience, je n'étais pas une expérience, j'ai une conscience, c'est sûr, il est présent. Ce premier amour est présent. Oui. Et comme celui-là, l'amour de la partie, elle vient de tout, il est présent.
Saisir à travers un certain effet.
À travers la conséquence normale. Est-ce que vous l'acceptez librement ? Et que cet amour va se nouer en intention. Donc il y a une conscience. Mais une conscience, mais un peu comme l'appréhension est consciente par le jugement. Un petit peu ça, c'est le premier élément, si vous voulez. C'est l'élément fondamental. C'est bien un acte. C'est une analogie qu'on peut faire entre appréhension et jugement et le point de vue. Cet amour spirituel et cette intention qui va nouer ce passage donc du bien vers la fin. Parce que là, il y a vraiment comme un jugement. Et c'est là où il y a pleine conscience. Et cette intention se noue dans le choix. Où je m'offre. Je m'offre moi-même. Je suis dans cette attitude d'offrant, de m'offrir. Il me semble que la dévotion est quand même plus liée à... C'est des mots, mais je ne sais pas quelle est la sensibilité. C'est intéressant, du reste, c'est intéressant de voir ça, parce que c'est toujours des questions de sensibilité au point de vue profond, au point de vue spirituel. Si on met l'adoration fondamentalement, ça m'a toujours semblé. Je suis très, très... est porté à montrer que l'adoration est quelque chose de fondamental. Et il m'a semblé que quand l'adoration n'était plus présente, alors il y a comme une espèce de manque d'orientation fondamentale au point de vue religieux. Je vous dis, je ne crois pas que c'est en dehors de saint Thomas, mais ça précise quelque chose que saint Thomas ne précise pas. Toujours, la philosophie doit aller plus loin que la théologie. La philosophie doit aller plus loin. La philosophie doit préciser certaines choses que la théologie n'a pas besoin de préciser. Parce que la théologie prend une question de sexe. La dévotion, c'est sûr. Ça. Et la dévotion, alors, se demander, pour corriger bien, c'était la question que je vous demandais, au point de vue chrétien. Alors, passons au point de vue chrétien, pour essayer de comprendre. Je pensais le faire après, mais on peut le reprendre maintenant. Passons au point de vue chrétien. Au point de vue chrétien, c'est pour voir si la dévotion est antérieure à l'adoration. Ça, ce serait très intéressant de voir. Mais si, du point de vue chrétien, du fait même que je suis par la foi lié à mon Créateur immédiatement, dans l'amour. Alors, à l'égard d'une personne, dans un ordre d'amitié, l'analogie de l'amitié, on se dévoue avant d'honorer. Je prends l'amour d'amitié. L'ami face à son ami. Bon, alors, c'est un amour réciproque qui est. Dans l'amour réciproque, qu'est-ce qu'il y a de premier ? C'est de se lier, de se dévouer à l'ami. Et quand on se dévoue à l'ami, ensuite, on lui rend l'honneur qui lui est dû. Oui. Alors, ça proviendrait de cet amour fondamental réciproque, la charité, l'agapé. L'agapé fait qu'il y a un amour réciproque. La charité fait qu'il y a un amour réciproque vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il y a un amour réciproque vis-à-vis de Dieu, alors la dévotion passe avant. Et l'adoration est vue après pour rendre. L'adoration, c'est l'honneur qui est dû à Dieu. C'est visiblement, c'est ça. Je dois honorer Dieu tel qu'il est. Alors, vous voyez, donc, il me semble qu'au point de vue théologique, je fais passer la dévotion avant parce que la théologie fait que le point de vue religieux est assumé par l'amour. Et dans un amour réciproque. Tandis qu'au point de vue philosophique, ce n'est pas ça. C'est que c'est vraiment la partie à l'égard du tout, c'est vraiment le Créateur. Or, il me semble que la découverte de Dieu comme Créateur me met premièrement dans une attitude d'effacement. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure en disant qu'il n'y a pas d'amour de réciprocité. Pas d'amour de réciprocité, l'amour de réciprocité n'est pas premier. Et donc, si l'amour de réciprocité n'est pas premier, c'est vraiment le respect qui domine. Je suis en présence d'un être qui me dépasse complètement. Je suis en présence d'un être qui, pour moi, est source de tout moi-même. Et donc, l'attitude première qui est dans l'amour, qui va se présenter à moi, c'est d'adorer. Ensuite, je vois que par l'adoration, il se crée un lien. Mais le lien est réalisé par l'adoration. Il n'est pas premier. Tandis que là, il est premier, il est donné gratuitement. Il me semble, autrement dit, si vous voulez, parce que c'est intéressant ces choses-là, je crois que c'est quand même très important, parce que nous risquons toujours de prendre la pensée de saint Thomas et de laïciser la pensée de saint Thomas en faisant une philosophie avec tout de là. À ce moment-là, on ne repense pas. C'est très dangereux, parce que par rapport aux autres religions, c'est ça que je voudrais voir, par rapport aux autres religions non révélées, parce que le judaïsme implique le point de vue de la révélation. Donc, c'est déjà pas tout à fait la même chose. Bien que il dit un seul Dieu, tu l'auras. Premier commandement, c'est pas la même chose. Et que dans toute la tradition religieuse de la Bible, c'est l'adoration qui est première. Ça, je crois absolument. Et tous les pères de l'Église mettent toujours l'adoration en premier lieu. Saint Thomas, en théologien, lui met la dévotion, je crois, à cause de l'amour. Voilà, c'est ça que je me dirais. C'est que grâce à cet amour de réciprocité, il y a un lien. Il y a un lien avec Dieu, ça c'est sûr. Quoi. Dans l'amour d'amitié, c'est pas un ami, c'est pas la première chose qu'on fait, c'est de l'honorer. C'est le contraire. La première chose, c'est je suis totalement dévoué à toi. Je suis entièrement, tu sais bien, je veux te rendre service, je veux manifester. Donc c'est le dévouement, c'est la dévotion, le dévouement qui est premier. Puis ensuite, si quelqu'un parle mal de son ami, on le défend, on l'honore. Oui, c'est après, c'est pas premier. Analogiquement, c'est un peu la même chose. Nous avons repris toute l'éthique par le point de vue de l'amour d'amitié. Nous retrouvons ici un premier amour nouveau qui va se traduire dans l'adoration. Et il me semble que ce premier amour se traduit dans l'adoration. Et ensuite, cet amour qui me met dans la vérité, c'est ce qu'on dira. L'adoration me met dans une attitude de vérité, de créature à l'égard du Créateur. Par l'adoration, je suis dans une attitude de vérité pratique. Celui qui n'adore pas n'est pas dans cette vérité pratique. Il y a quelque chose qui manque. Alors, cette vérité pratique va permettre de découvrir cette attitude de dévouement, de dévotion.
Si on veut analyser l'acte religieux, on n'est pas obligé de distinguer une première adoration et une adoration parfaite qui implique l'attitude religieuse. Alors, comment avez-vous cette adoration parfaite?
Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est le sacrifice.
Le sacrifice, c'est l'expression.
Le sacrifice implique. Le sacrifice va impliquer la dévotion. Vous voyez, vous mettez ça, le sacrifice ici. La consécration, elle est d'abord ici. La consécration, si je fais la consécration fondamentale et première, je suis d'accord qu'on pourrait dire que le sacrifice n'est pas une consécration au sens propre, tandis que l'adoration première, intérieure, est une consécration. Je veux dire, là, on se consacre, puis on se dévoue au service, et puis le point de vue du sacrifice. Et le sacrifice, c'est l'adoration plénière, c'est l'adoration communautaire. Et cosmique.
Ça ne peut pas être premier si c'est communautaire.
C'est pour ça que je n'ai pas premier. Je mets en troisième lieu.
Oui, mais ce n'est pas propre à l'acte religieux.
Ah oui, oh, tout à fait. L'acte religieux implique l'aspect communautaire.
Oui, mais c'est
quoi? Non, c'est pas une conséquence. Pas une conséquence, c'est premier. C'est que je suis un animal politique. Et l'animal politique, il reconnaît sa dépendance totale à l'égard de l'être premier. Et il aime de la reconnaître. Sacrifice et liturgie. Je vous dis ce que il me semble. Il me semble, je vois très bien, c'est pas commode parce qu'au fond, on y pense très peu. Il faut bien se le dire, on y pense très peu dans cette analyse fondamentale au point de vue religieux. Alors, je crois que nous devons le faire. Oui.
Si on regarde certaines religions, c'est très primitif. Il n'y a pas uniquement Dieu, il y a aussi les intermédiaires.
Oui, mais alors, vous voyez, là, je suis... Ce serait second, ça, parce que là, on pourrait discuter. Est-ce que ces traditions sont suffisamment pures, vous voyez?
Parce que, enfin, si on regarde chez les Pygmées,
nos chers pygmées.
Dieu est trop transcendant pour
vous. Oui, mais ça c'est autre chose. Voyez. Alors là, je suis dans une attitude de tradition. Les traditions transportent. Ma philosophie religieuse ne repose pas sur les traditions. Je ne fais pas une histoire de l'attitude religieuse. J'essaie philosophiquement de comprendre l'homme par rapport à Dieu, même si de fait. Ça se réalise toujours très mal, ça c'est autre chose, hein. Et qu'au fond, ça ne s'est réalisé parfaitement qu'avec le christianisme. Tout à fait d'accord. Mais ce que j'essaie, c'est de comprendre au plan philosophique jusqu'où je peux aller. Je vais aller le plus loin possible au point de vue philosophique. Or, le plus loin possible au point de vue philosophique, c'est de découvrir l'existence d'un être premier qui est notre créateur. Et une fois qu'on a ça, on peut fonder philosophiquement l'attitude religieuse. Et au fond, c'est ça que je cherche. Fonder philosophiquement l'attitude religieuse. Alors, fonder philosophiquement l'attitude religieuse, c'est essayer de comprendre quel est le premier acte. Voyez, où apparaît en premier lieu l'attitude religieuse. Et je dis que, philosophiquement parlant, le premier acte, c'est l'acte d'adoration, d'aimer cette dépendance radicale et la reconnaître. Et par là, je me consacre. Oui. La consécration est une conséquence de cette... de reconnaître ce lien de dépendance radicale. Je m'offre et je me consacre. À partir de là, il y a une attitude d'abandon et qui va permettre la dévotion. Puis, le point de vue du sacrifice, qui va être un petit peu comme l'acte parfait. L'acte d'adoration parfait, c'est le sacrifice.
Oui. Alors, l'acte d'adoration, il réside plus dans l'intelligence ou dans le cœur ?
Ah, dans le cœur. L'intelligence et le cœur, c'est un acte d'adoration comme un acte d'amour. Vous voyez ?
Même philosophiquement.
C'est le seul amour que je peux avoir pour Dieu, c'est celui-là. Explicitement, c'est le premier amour. C'est un amour qui est vraiment l'amour de la partie à l'égard du tout, et la partie s'offre. C'est vraiment un amour qui me lie, qui me fait cette offrande intérieure. Alors l'intelligence est présente, l'intelligence de sagesse est présente, hein, ce que nous avions dit. Il y a l'intelligence, puisqu'au fond il faut affirmer l'existence du Créateur, et là tout point de vue, l'intelligence est présente, mais l'adoration est formellement l'acte d'amour. Comme la dévotion.
Vous savez qu'il nous met dans une vérité.
Ah, il nous met dans une vérité pratique. L'intelligence n'est pas absente, mais c'est pas la vérité que je cherche en premier lieu quand j'adore. Vous voyez ? C'est la conséquence, un petit peu comme la consécration. Vous voyez, c'est que je dirais comme conséquence que l'adoration me met dans une attitude de vérité. Mais ce n'est pas ça que je cherche en premier lieu quand j'adore. C'est reconnaître la dépendance radicale à l'égard de l'être premier, à l'égard de mon créateur.
C'est plus l'intention que le choix.
C'est plus l'intention. J'aime mieux l'intention. Mais je dis un choix parce que je crois, vous voyez, alors là c'est une question que vous touchez, que nous reverrons en éthique chrétienne. Vous voyez, je crois qu'il y a des télescopages qui vont se faire de plus en plus. Quand il s'agit de l'amour, quand il s'agit de l'agapé, l'agapé est à la fois un amour, une intention et un choix. Est-ce que l'adoration n'est pas... Vous voyez ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà ça dans l'attitude religieuse ? À la différence d'un point de vue purement humain. Le point de vue purement humain se développe alors vraiment, progressivement, mais au fond, un acte parfaitement humain se développe au niveau de l'intention et va impliquer un choix. Quand je dis un choix, vous comprenez, c'est le choix libre dans toute sa pureté. Je choisis Dieu comme fin. Et je sais que lorsqu'il s'agit d'adoration, il n'y a pas de moyen adéquat. C'est dans ce sens-là que je dis un choix, vous voyez ? Il n'y a pas de moyen adéquat. Je ne peux pas, vis-à-vis de Dieu, traduire mon adoration en choisissant un moyen adéquat. Il n'y en a pas. Et je vais me rabattre sur l'attitude du sacrifice au niveau communautaire, dans une attitude symbolique. Et l'attitude symbolique n'est jamais adéquatement vraie. L'attitude symbolique, c'est parce que je ne peux pas faire autre chose, c'est l'ersatz, au point de vue proprement religieux. Et on comprend, alors ça ferait comprendre certaines attitudes, vous voyez, qu'au point de vue proprement religieux, mais non, ça fait, c'est vous montez, ça va plus. Vous voyez ? Puisqu'au fond, vous voulez montrer votre dépendance à l'égard de Dieu, qui est source de vie en tuant un animal. C'est vrai, il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait du symbolisme religieux qui fait que c'est un intermédiaire que je fabrique, que je fais. Ça me semble très curieux dans la Bible, même on voit ça, qu'au fond, l'établissement d'un sacrifice, l'établissement d'un autel et tout ça, ça se fait progressivement. C'est l'homme qui fait ça progressivement. C'est le fait chéré à l'intérieur de la vie religieuse. Le pas de chéré à l'intérieur de la vie religieuse n'est jamais absolument libre. Parce que quand on découvre Dieu comme créateur, on voudrait justement cette espèce de limpidité absolue, puisque Dieu est le seul être qui me voit intérieurement tel que je suis. Alors pourquoi fabriquer un autel ? Pourquoi prendre un geste symbolique ? Puisque Dieu le voit. C'est pour moi-même, à cause de ma sensibilité, et c'est pour l'autre. Et on voit très bien tout le purisme de réaction au niveau religieux qui n'aime pas ces choses-là, à cause de ça. Et ça, je crois que c'est très important. Et il me semble que c'est ce levier très profond de l'adoration qui, justement, me met dans cette attitude de pureté vis-à-vis de Dieu, où je voudrais être dans une attitude de limpidité absolue à l'égard de celui qui est mon Créateur, qui, lui, voit tout, qui, lui, me donne tout, puisque c'est un don gratuit, et je veux répondre en une façon complètement, c'est-à-dire en prenant conscience profondément de cette dépendance amoureuse à l'égard de Dieu. Cette dépendance aimante. Ça fait comprendre toute la différence qui existe entre justement l'adoration intérieure et le sacrifice. Vous voyez ? Le fameux livre là, sur le sacrifice. Là. Oui, on en reparlera parce que ça c'est intéressant. Il faut le reprendre ici. J'en parlerai la fois prochaine. Parce que c'est très important de bien saisir ça. Parce que là, il peut être au niveau de l'histoire de la vie religieuse, au niveau de l'histoire du sacrifice. Alors, c'est faux. Il y a une erreur. Il y a une erreur qu'il faut essayer de comprendre. Alors, je la verrai la fois prochaine. Je voulais revenir là. Alors, il y a un point de vue que je veux situer tout de suite. Maintenant que. Ça ne veut pas dire, hein, moi j'aimerais beaucoup que vous y réfléchissiez, que vous essayiez d'élaborer ça. Parce que c'est important. Il n'y a rien de, il me semble, bien fait dans ce domaine-là. Si vous voyez une étude bien faite là-dessus, oui, vous le direz. C'est l'heure. Ah, bon. Alors la fois prochaine, rappelez-moi, liberté religieuse. C'est important. Essayez de comprendre, parce que je crois que des quantités d'erreurs viennent de là, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la liberté religieuse. Et que le Concile a voulu établir. Alors il l'a peut-être fait très maladroitement, ça, c'est autre chose. Hein. Liberté religieuse, qu'est-ce que c'est que la liberté religieuse? Parce qu'il y a un nouveau type de liberté qui apparaît avec l'adoration. Thank you.